Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Territoria, Radio Imo, bienvenue dans cette émission spéciale AMIF 2024. Au moment où nous enregistrons, nous sommes à une semaine du coup d'envoi de la 28e édition du Salon de l'Association des maires d'Île-de-France qui se tiendra donc les 28 et 29 mai prochains, Hall 6 du Parc des Expositions Porte de Versailles. À mes côtés, Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Sylvain.
Bonjour Jean-Baptiste et bonjour à tous.
Et comme chaque année, Radio Imo et Radio Territoria sont partenaires du Salon AMIF 2024, ne fait évidemment pas exception.
Absolument, nous sommes très fidèles à ce rendez-vous incontournable au niveau francilien. C'est l'occasion aussi de rencontrer ceux qui font la vie des Français et d'Île-de-France au quotidien.
Clairement, en plateau également, deux invités avec nous que je m'empresse de vous présenter. Marion Vergelen, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous.
Vous êtes la directrice générale de l'AMIF. Ensemble, évidemment, nous reviendrons sur les missions de l'association, mais aussi et surtout sur les temps forts de cette 28e édition de votre salon. Et puis à vos côtés, il y a Bertrand Flahaut, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Alors vous êtes le directeur du développement Île-de-France de Serfim, l'entreprise fait partie d'ailleurs des exposants. Serfim, c'est un groupe spécialisé dans les métiers des travaux publics, mais pas que.
Mais pas que, je vous en dirai plus.
Bon, et puis vous êtes également, parce que vous avez une double casquette, vous êtes ancien vice-président de la MIF et actuel membre du conseil d'administration. Et on y reviendra tout à l'heure, en tout cas bienvenue à tous les deux et merci surtout d'avoir répondu à l'invitation. Alors avant de parler de cette 28e édition, quelques mots évidemment sur l'association des maires d'Île-de-France qui depuis 1990 fédère les communes du territoire francilien dont plus de 80% sont adhérentes.
Oui, l'AMIF, c'est l'association qui regroupe, à l'instar finalement de l'Association des maires de France, sur les territoires franciliens, avec une population qui quand même représente un cinquième de la population française. C'est pas neutre, c'est 8 départements, c'est un enjeu majeur. On a envie d'en savoir plus aussi, pour qu'on puisse vous connaître mieux, mais peut-être aussi le grand public, toutes celles et ceux qui nous écoutent. La mission première de l'AMIF, Marion Vergelen.
Alors, en fait, l'Association des maires d'Île-de-France, effectivement, vous le disiez, Sylvain, est composée de maires sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. Donc, on a à la fois des maires de communes urbaines et des maires de communes très rurales. Son rôle, en fait, elle a une triple vocation. Elle va avoir tout d'abord une première vocation qui va être d'accompagner les élus, donc les maires, dans leur quotidien, dans l'exercice de leur mandat, en leur mettant à disposition de l'expertise. Donc ça, on le fait, par exemple, en organisant des webinaires via des décryptages d'actualité, via des interventions d'experts. Donc ça, c'est un premier sujet. Un deuxième rôle de l'Association des maires d'Île-de-France, ça va être de favoriser les échanges entre les élus. Sur des problématiques communes, en fait, les maires, les élus locaux vont venir se rencontrer, parler de leurs bonnes pratiques, parler de leurs exemples de projets innovants sur leur territoire. Et un troisième point, ça va être de faire remonter les besoins des élus, les propositions que pourront faire les maires et construire au sein de l'Association des maires d'Île-de-France pour que l'échelle communale d'une part et d'autre part les problématiques spécifiques à l'Île-de-France puissent être prises en compte à la fois par le législateur dans l'élaboration de la loi mais aussi par l'État dans les politiques nationales puisque effectivement vous le disiez Sylvain, on a une Île-de-France qui est quand même une région très spécifique avec des problématiques spécifiques, 12 millions d'habitants avec des problématiques spécifiques en matière de mobilité, de logement, etc. Donc c'est pour ça que les élus ont souhaité construire une association spécifique sur ces sujets qui intervient maintenant depuis plus de 30 ans.
C'est vrai que le congrès, c'est un peu le point d'orgue, finalement, de tous ces mois, ces semaines précédentes où vous travaillez à la réunion de tous ces élus. Si je vous demandais justement quel est le pouls actuel à l'aube de l'édition 2024, qui est dans quelques jours, comment aujourd'hui, quel est le moral finalement des élus franciliens aujourd'hui? Vous les sentez comment?
Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a la question du moral des élus franciliens, il y a la question du salon. Déjà, sur le salon, on est extrêmement impatients. On est très fiers de cette édition, puisqu'on aura plus de 200 exposants, donc des grandes entreprises et des plus petites entreprises, des institutionnels qui vont venir, en fait, sur le salon.
200 exposants, c'est considérable.
C'est énorme, c'est tout un écosystème qui seront là pour présenter leurs solutions, leur vision de l'avenir de l'Île-de-France. Et puis, on aura aussi une centaine de conférences avec des experts extrêmement intéressants, des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités. Donc, on a quand même une certaine impatience sur cet événement et en tout cas une très grande fierté de notre côté. Voilà, et après, on va dire le moral des élus est une question assez large. Mais ce que je peux dire, c'est que les maires sont des personnes extrêmement résilientes, que moi personnellement, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, parce qu'il faut énormément de courage aujourd'hui pour être élu local. Et ce sont des personnes qui font face aux crises et qui tiennent bon dans tous les cas de figure.
Là, moi, je tiens à ajouter, si vous permettez, que les élus locaux, c'est un véritable sacerdoce. Puisque c'est la seule élection qui se gagne face aux administrés, vous savez, auxquels on rencontre tous les jours. Le même administré qui vous appelle à 3h du matin le dimanche soir, par exemple, parce que les rues par exemple, les poubelles sont au milieu de la rue. Des élus locaux que parfois on fustige, qu'on stigmatise, parfois que l'on agresse. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec Vincent Jeanbrun, mais ça a marqué quand même l'opinion. Et parfois, la relation avec un pouvoir qui jacobinise ou se centralise, où on a l'impression réellement que les élus locaux sont mis un petit peu à la troisième zone de l'État centralisateur.
Oui.
Et c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans votre événement, c'est que c'est l'occasion de cette écoute, de cette force des projets qui émergent avec des personnes qui n'ont comme seul souci que l'intérêt de leur commune et l'intérêt général. Et je crois que ça fait du bien, finalement, de rencontrer des élus locaux. Et je pense que ça ferait du bien aussi à notre gouvernement de redécouvrir les vertus de l'élu local.
Alors, il y a énormément de sujets dans ce que vous dites. Tout d'abord, il faut avoir en tête qu'on est aujourd'hui dans une crise démocratique majeure. Et le maire reste quand même un des élus en lesquels les Français ont le plus confiance. Effectivement, parce que c'est un élu de proximité. Donc, c'est vrai que nous, à l'Association des maires d'Île-de-France, autour de notre président Stéphane Baudet et l'ensemble des élus qui s'investissent dans nos instances, on est vraiment convaincu que c'est extrêmement important de conserver en fait l'échelle de la commune et de permettre aux maires de garder leur capacité à agir. C'est un peu du bon sens, c'est-à-dire que à partir du moment où on a une défiance extrêmement importante de la population certaines parties du monde politique, c'est extrêmement important de maintenir ce lien de confiance et de maintenir la capacité à agir des élus. Donc effectivement, il y a tout un tas de questions qui se posent. Il y a des questions sur le statut de l'élu, comment on fait en sorte de l'améliorer pour éviter d'avoir des démissions d'élus qui sont malheureusement toujours plus importantes. Il y a la question effectivement des violences contre les élus. Alors les élus locaux ne sont pas les seuls, hein, malheureusement c'est vraiment tous les services publics, hein, qui sont concernés, mais
oui,
c'est un
sûr.
Sujet sur lequel on a fait beaucoup de pédagogie. C'est un sujet dont on ne parlait pas du tout il y a 3-4 ans et effectivement ça fait partie des questions qu'on a aussi mise dans le débat public, parce qu'à un moment donné, c'est important de faire en sorte que la justice puisse être suffisamment ferme pour faire en sorte qu'on puisse endiguer ce phénomène.
Il y a un autre phénomène, et je fais une petite digression, parce que, effectivement, à Territoria, on a cette chance, dans notre radio, de parcourir toutes les villes de France, tous les maires de villes moyennes, de villes parfois un peu oubliées, puis de villes qui ont une dynamique extraordinaire, et notamment un phénomène que j'avais rarement vu, moi depuis 30 ans que je suis dans ce métier. C'est des maires en cours de mandat qui jettent l'éponge. Et ça, ce phénomène en volume a augmenté, effectivement, parce qu'à un moment donné, ils en ont assez. Il faut savoir que ce sont des personnes de la vie civile qui se sont investies pour le service public, se sont investies pour l'intérêt général, et finalement se trouvent parfois démunies. Hein. On a aussi, on doit peut-être aussi écouter, parfois, une détresse de certains élus locaux dans cette impression qu'ils ont d'être un peu seuls, lâchés par un pouvoir, encore une fois, qui, quelque part, ne les écoute pas toujours. C'est aussi l'occasion d'en parler.
Oui, oui, tout à fait. En fait, il y a effectivement des démissions qui augmentent. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. On a tout d'abord des maires qui sont élus hein, sur la base d'un projet de mandat et qui voient leur capacité financière diminuer. Donc, c'est extrêmement compliqué de pouvoir mener à bien son projet de mandat à partir du moment où on n'a pas les moyens de le faire. On a aussi une complexité administrative extrêmement forte. On a notamment pour les petites communes l'idée de pouvoir à un moment donné avoir les services suffisants pour pouvoir répondre à la multiplication des appels à projets qui vont déterminer l'accès à telle ou telle subvention. Donc ça, c'est effectivement un contexte extrêmement extrêmement difficile et puis aussi hein, un mandat qui devient de plus en plus complexe avec la nécessité à un moment donné de faire face à des lois qui évoluent tout le temps, à un système d'acteurs extrêmement compliqué, et c'est aussi notre rôle de pouvoir les accompagner sur ces sujets.
De nombreux sujets, effectivement, qui seront évoqués aussi à l'occasion de cette 28e édition. Comme chaque année, vous retenez un thème central. Cette année, vous avez fait le choix de l'environnement, de
oui,
l'écologie.
Alors... Plus précisément, oui. L'adaptation au changement climatique. Voilà. Et du coup, pourquoi ce choix ?
Oui, bien sûr, c'est la question, effectivement. Pourquoi ce choix ?
Si vous voulez. Hein.
Oui, effectivement. En fait, on a fait le choix de parler de la question à la fois de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique parce que on est aujourd'hui dans une situation d'urgence. On aura, selon le scénario estimé par le GIEC, un réchauffement de plus 4 degrés d'ici 2030, ce qui signifie concrètement, d'après les prévisions de Météo France, des pics de canicule avec parfois 50 degrés. Donc, je ne sais pas si on se représente vraiment ce que c'est une canicule à 50 degrés, vu ce qu'on vit déjà aujourd'hui. Voilà. Donc, par rapport à cette situation, qui est une situation d'urgence sur laquelle à la fois les maires et les entreprises sont mobilisées, l'idée c'était de pouvoir effectivement avoir un salon qui porte principalement sur cette question-là, parce qu'on est convaincus, nous, à l'Association des maires d'Île-de-France, et aussi parce que c'est un peu dans notre ADN, puisqu'on a aussi une association de partenaires d'entreprises, que c'est parce que tous les acteurs vont se mobiliser qu'on pourra trouver des solutions et avancer sur ces sujets. Donc à la fois du côté des collectivités locales et des entreprises, avancer sur ces sujets-là. Donc on aura du coup tout un tas d'événements avec des conférences justement pour trouver à la fois avec des éléments de panorama un peu de diagnostic un peu global, mais aussi des solutions très concrètes sur différents sujets. Parce que quand on parle du changement climatique, concrètement, donc il y a la question des fortes chaleurs. Donc ça veut dire pour les collectivités locales, travailler pour lutter contre le phénomène des îlots de chaleur, qui sont, lorsque la chaleur s'emmagasine dans les villes et va en fait se décupler pendant les canicules. Ça va être aussi se préparer au phénomène des inondations, qui vont être de plus en plus fréquentes, aussi en lien avec ce changement climatique. Et puis, mieux gérer aussi nos ressources en eau, donc, puisqu'on aura malheureusement davantage de sécheresses et les inondations ne vont pas nous aider là-dedans puisque les terres ne peuvent pas absorber. Donc on aura des experts qui vont aborder tous ces sujets-là pendant tout au cours du salon et on aura évidemment notre conférence inaugurale qui portera sur ces questions.
Conférence inaugurale auquel participera notamment la présidente du conseil régional.
Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Et on aura également Stanislas Guérini, donc le ministre de la fonction et de la transformation publique, qui viendra échanger aussi sur ces questions de fonction publique, puisque c'est vraiment au cœur de la capacité à agir des collectivités sur ce sujet.
Il y a d'autres ministres qui sont attendus aussi également ?
Oui, tout à fait. On aura également Dominique Faure, qui est ministre auprès de Christophe Béchu sur les questions sur les collectivités territoriales et la ruralité, qui sera présente sur l'événement de clôture et donc qui interviendra sur la capacité des territoires ruraux à s'adapter au changement climatique, puisqu'on a à la fois des problématiques spécifiques hein, quand on parle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la ruralité, quand on est sur des territoires avec une très forte dépendance de l'automobile notamment, comment est-ce qu'on fait puisque les mobilités automobiles sont un facteur d'émission de gaz à effet de serre important, et en même temps des territoires qui ont aussi tout un tas de potentiel, puisqu'on a aussi des espaces qui captent le carbone, hein, les forêts, les milieux aquatiques. Et puis on aura également le ministre du Logement, donc Monsieur Kasbarian, qui sera présent sur une grande conférence sur les solutions à trouver contre la crise du logement.
Dieu sait que des solutions, il en faut, hein,
pour la crise du logement, Jean-Baptiste. C'est clair. Le salon de la MIF, c'est donc un rendez-vous évidemment incontournable pour les maires, mais aussi donc pour les pouvoirs publics. Hein. On vient de citer le nom de quelques ministres qui seront présents. Parmi les exposants, comme chaque année aussi, de nombreux institutionnels. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns?
Oui, alors je vais me faire taper sur les doigts si je commence à en oublier.
Alors, mais, on va pas faire un inventaire à la Prévert, mais effectivement, si on peut en citer quelques-uns.
Parmi les exposants institutionnels, on a notamment la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris.
Bien sûr.
On a l'ADEME, France Travail, l'Agence régionale de santé, et puis voilà, énormément d'acteurs qui seront présents sur ce secteur.
Alors, on a aussi des personnes qui sont dans le secteur de Bertrand Flahaut. Justement, si on veut en savoir un peu plus, alors vous êtes très engagé, ça fait quelques années qu'on se suit sur les réseaux sociaux.
Tout à fait.
Et au niveau régional, vous êtes un acteur incontournable, très ancré finalement sur ce que j'appelle moi la responsabilité sociale locale. Et c'est vrai que c'est une des marques de fabrique de votre groupe. On a envie d'en savoir un peu plus si on devait aujourd'hui décrypter le panorama d'activité de Serfim.
Ah, Serfim. Alors Serfim, c'est une entreprise de taille intermédiaire, comme on dit, une ETI. Une ETI familiale, indépendante, qui va fêter ses 150 ans en 2025.
Dans 50 ans, ils pourront faire partie des Enochiens. Vous savez, c'est ce groupe de plus de deux siècles qui appartient à des familles encore avec un patrimoine familial.
Et on y compte bien. On y compte bien. Effectivement, le capital de Serfim est à la fois familial et salarial. Donc Serfim, c'est une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 580 millions d'euros et qui compte 2800 collaboratrices et collaborateurs qui sont réunis autour d'une raison d'être commune qu'on a définie ainsi, contribuer à améliorer la qualité de vie des habitants en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant.
Ok. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques exemples de réalisations?
Bien sûr. Alors sur les métiers, pour être plus précis, nos activités en gros s'orientent sur une dizaine de métiers très concrets dont la finalité est tangible et utile au quotidien de tout à chacun. Alors je peux dire par exemple que nous posons et réparons les réseaux d'énergie, d'eau, de chauffage. Nous dépolluons les sols et l'eau, nous réparons les tunnels, les ponts, les ouvrages d'art, nous aménageons des routes, des pistes cyclables, nous recyclons les déchets et nous les valorisons en de nouvelles matières premières. Et nous développons les énergies propres de demain, comme les panneaux photovoltaïques.
C'est quoi concrètement l'enjeu pour un groupe comme Serfim d'être présent sur ce type de salon?
L'enjeu, il est central aujourd'hui. Le salon de la MIF, comme vous le disiez, c'est le seul rendez-vous de cette taille-là à l'échelle régionale. On y rencontre une majorité d'élus franciliens. L'enjeu, il est dans les deux sens. Majoritairement, il est pour nous d'être utile aux élus. C'est l'enjeu aussi des membres de l'association Amif Partenaires. Être utile aux élus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les villes, les élus ont des capacités qui diminuent financières chaque année. Ça veut dire qu'elles ont moins de moyens pour leurs projets. Elles ont moins de moyens aussi pour acquérir des compétences en interne au niveau des services. Nous sommes là, nous, pour leur donner des solutions, partager notre expertise, leur faire connaître les bonnes pratiques, puisque de par nos implantations, une centaine en France et à l'étranger, nous avons quand même un certain nombre d'exemples de choses qui marchent, qui ont marché et qu'on peut leur soumettre.
En tant qu'énergéticien, parce que vous êtes aussi énergéticien.
Tout à fait, activité énergie, la principale chez Serfim.
Alors là, vous avez évoqué les panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous travaillez sur d'autres sources d'énergie, par exemple la géothermie?
Alors, on déploie des infrastructures de transport d'énergie. Nous ne sommes pas producteurs de géothermie. En matière d'énergie, nos activités principales concernent les réseaux de distribution et de transport, donc aussi bien des travaux de haute tension pour RTE ou de haute pression pour GRTGaz, mais aussi de la distribution pour Enedis, pour GRDF, mais également du transport de pétrole pour Trapil. Et des réseaux de chaleur pour la plupart des collectivités locales.
Alors, c'est un enjeu qui est majeur, hein, Marion, la transformation énergétique. Un enjeu qui suscite bien évidemment frottement, résistance, mais c'est normal. Une société, d'un point de vue anthropologique, qui se transforme, crée forcément des résistances sur notamment le remplacement des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Mais aussi un autre aspect que dans vos travaux, qui est très intéressant, concerne justement les problématiques de parité homme-femme et liées notamment à la santé. Et je crois que vous travaillez en ce moment d'ailleurs à la rédaction d'un livre blanc sur l'égalité homme-femme et vous en avez publié d'ailleurs récemment sur des questions de santé. C'est aussi un axe central qui est la préoccupation des élus locaux.
Oui, ça fait partie des sujets effectivement sur lesquels on travaille. On avait publié un livre blanc sur les questions de santé. Alors un livre blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait un recueil qui permet de recenser à la fois un diagnostic du sujet au niveau francilien et des propositions qui sont réalisées par nos élus. Donc sur les questions de santé, par exemple, il y a énormément de problématiques hein, au niveau de l'Île-de-France puisqu'on est le premier désert médical en nombre d'habitants sur l'ensemble de la France.
En Île-de-France ?
En Île-de-France, ouais.
En
nombre d'habitants.
Je viens d'apprendre quelque chose. Mmh. Hein. On aurait tendance, vous voyez, souvent de l'extérieur. Moi, je suis provincial, comme tous les Parisiens. de l'extérieur, on a l'impression que justement, parce qu'on vit en Île-de-France, on aurait accès à tout.
Et non, en fait, quand vous prenez le nombre de médecins par rapport au nombre d'habitants, même dans des zones très densément peuplées, on est en besoin de médecins. Et alors, sur les territoires ruraux, c'est assez catastrophique. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont obligées de faire 1h15 de taxi pour aller chez le dentiste. Donc, on en est quand même là. Mmh. Voilà. Les élus, sur ces questions-là, évidemment, travaillent pour lutter contre les déserts médicaux. Mais un des sujets, c'était aussi la question de la prévention sur les questions de santé, qui est une question sur laquelle les élus peuvent énormément agir. On considère que la santé d'un individu va être impactée à un tiers par des questions de prévention, à un tiers par son environnement et à un tiers par des agents pathogènes, donc des virus, des bactéries, etc. Ça veut dire que concrètement, les élus peuvent agir sur deux tiers de la santé des individus en ayant des politiques de prévention, des politiques d'amélioration de l'environnement.
C'est ce qu'a mis en relief l'étude que vous avez menée.
Exactement. Et donc, on fait tout un tas de propositions pour dire ce que les élus peuvent faire sur le sujet, et ce que les élus font déjà sur ces questions-là. Et effectivement, sur les questions d'égalité femmes-hommes, donc on a un travail qui est en cours sur ces questions-là également, où là encore, les élus sont en première ligne, puisque quand vous avez une femme qui va frapper à la porte de la mairie pour dire il me faut un logement parce qu'en fait là je suis en danger de mort, c'est compliqué de ne rien faire. Donc c'est souvent par ces questions-là d'ailleurs que les élus démarrent sur ces sujets, mais on a aujourd'hui énormément d'initiatives en matière d'accompagnement contre les violences faites aux femmes et de prévention sur les questions d'égalité.
Est-ce qu'on peut imaginer par exemple que ce phénomène et s'aggrave plus parce qu'on a une densité forte en Île-de-France?
C'est un phénomène.
Est-ce que c'est mécanique,
en fait,
la relation au volume?
C'est présent partout, dans tous les territoires. Donc on va avoir des élus de zones plus denses ou de zones moins denses, et c'est présent partout, dans tous les territoires et dans tous les milieux sociaux. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître assez fortement. Donc, c'est un livre blanc qu'on publiera à la fin de l'année.
Mmh. On parle souvent, d'ailleurs, des questions du logement, hein, sur qui est l'élément central, avec la vision un peu maslonienne, vous savez, du logement. C'est-à-dire le lieu où les destins, finalement, se forgent, qui est le lieu de sécurité de la famille, quelque part. En parlant, de logement, quand on voit les chiffres, mais vous les connaissez certainement, les chiffres, que ce soit en Île-de-France ou les chiffres au niveau national, c'est une catastrophe absolue. On a rarement atteint, d'un point de vue démographique, une telle demande de logement et une telle précarité au niveau du logement. C'est assez désespérant. Je me suis livré à un petit exercice en interrogeant les maires adhérents de l'AMI, certains que je connais bien depuis quelques années maintenant, dans lesquels ils se sentent mais totalement désemparés. Est-ce que, vous aurez l'occasion, peut-être, d'évoquer avec Guillaume Casbarian, qui a déployé, vous savez, il y a quelques jours, sa feuille de route au Sénat. Ça a l'air de plutôt bien se présenter. On est confiant plutôt au niveau de l'association des maires d'Île-de-France.
Alors, déjà pour rappeler les chiffres, effectivement, on estime qu'il manquerait 800 000 logements en Île-de-France.
Waouh!
C'est énorme.
C'est énorme.
Et donc, l'objectif de la loi Grand Paris, c'était de construire 70 000 logements par an. Donc, il y a un effort énorme. Sur ce sujet-là, pour l'Association des maires d'Île-de-France pour notamment notre vice-président en charge du logement, Jean-Philippe Dugoin-Clément, la question centrale, c'est la question de l'aide aux maires bâtisseurs. Alors, de quoi parle-t-on ? à partir du moment où on construit des projets de logement, on accueille des nouveaux habitants, donc potentiellement soit des personnes avec enfants qui devront mettre leurs enfants à l'école ou des personnes qui ont besoin d'avoir recours aux services publics. Donc ça signifie que derrière, il faut que la commune puisse construire les équipements associés. Nous, ça fait des années qu'on répète, dans un contexte de baisse de dotation pour les communes, qu'il faut pouvoir retravailler sur cette aide qui avait été créée en 2015 et qui s'est très vite arrêter, à savoir d'avoir, à partir du moment où il y a des constructions de logements, d'avoir une aide financière supplémentaire de l'État pour pouvoir construire les équipements associés.
Bien sûr. En fait,
on
ne
peut pas accueillir des habitants si on a déjà des écoles saturées à 36 Évidemment. Élèves par classe.
On a d'ailleurs, pardon, excusez-moi moi Jean-Baptiste, mais on a posé la question à Guillaume Casbarian. On a fait notre journaliste, hein, c'est un peu notre métier. On lui a dit justement, est-ce que quand vous allez associer les compétences au maire pour leur redonner, parce que dans sa feuille de route, c'est redonner le pouvoir au maire d'agir. Vous savez, c'est écrit comme ça. Hein. J'ai dit, c'est bien. Voilà. Puis j'ai repris les propos de Jean-Philippe. Je prends l'émission qu'on en a fait il y a quelques semaines. Nous, élus d'Île-de-France, nous sommes à l'os. Voilà. On ne peut pas aller plus loin. On n'a plus aucun levier pour financer. Et je lui ai posé la question, justement, de l'association de la compétence et des recettes. Parce que c'est bien de donner du pouvoir aux maires. Mmh. Encore faut-il leur donner les moyens. Apparemment, il y aurait une réflexion, effectivement, pour justement aller plus loin que la compensation. J'évoque bien sûr la taxe d'habitation, mais une compensation, des moyens financiers très concrets pour pouvoir y aller, parce que vous êtes d'accord, Marion, qu'on peut dire au maire tout ce qu'on veut, s'il n'a pas les moyens de faire les équipements, il ne pourra pas produire plus de logements et n'accepter finalement sur son territoire une nouvelle forme de démographie qui aujourd'hui parfois est pénalisée parce que justement manque de logements, manque d'infrastructures.
Oui, bah effectivement, ça avait été annoncé par le ministre qu'il y avait une écoute sur le sujet. Après, évidemment, entre l'annonce et la traduction en acte, il y a quand même, on attend de voir ce qui se passera. Et puis, c'est aussi des sujets qui sont travaillés au Parlement, donc dans le cadre des projets de loi de finances, voilà, où le contexte est quand même assez complexe.
Mais il y a quand même une bonne nouvelle, si je peux me permettre. Voilà, on a une bonne nouvelle. Les amis, après 2 mandats présidentiels, 4 gouvernements et un 5e ministre du logement, c'est le seul gouvernement, a priori, sur les 4 précédents, qui parle un peu mieux du logement, avec peut-être des orientations. Donc on va laisser le crédit à ce gouvernement pour nous donner de bonnes nouvelles, Jean-Baptiste.
Alors, vous parliez à l'instant de différentes publications que vous faisiez. Moi, j'aimerais revenir sur ce qu'a publié la MIF, un guide sur l'adaptation au changement climatique. Et si je souhaite en parler, c'est parce que c'est un lien direct, efficace, avec la thématique de ce salon. C'est un guide qui vise à quoi, en fait ? À accompagner les élus qui souhaitent justement mener des actions concrètes en la matière. C'est quoi, là, clairement, l'objectif ?
Oui, c'est exactement ça. Ça fait partie, justement, dans le cadre de notre vocation d'accompagner les élus dans l'exercice de leur mandat. C'est un guide qu'on a réalisé avec l'ADEME Île-de-France et l'Agence régionale pour l'énergie et le climat de l'Île-de-France.
Ouais, c'est top, c'est une vraie boîte à outils.
C'est une boîte à outils, exactement. On l'a travaillé de manière assez innovante avec des élus. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment eu un groupe de travail d'élus qui s'est réuni pour se dire, OK, moi, je veux démarrer, soit je veux aller plus loin sur ma politique d'adaptation au changement climatique. De quoi est-ce que j'ai besoin ? Et tous ces éléments-là, on les a mis dans le guide. Donc, ça va être tous les outils pour faire un diagnostic. Donc, il y a énormément de choses qui existent déjà, hein, mais on fait vraiment un recensement de l'ensemble des outils qui existent, de l'ensemble des acteurs également qui peuvent aider la collectivité dans ce travail-là. Et puis, ensuite, à partir du moment où on a pu travailler sur la question du diagnostic et des acteurs, quelles sont les clés pour construire sa politique d'adaptation au changement climatique sur son territoire ?
Alors, pour en revenir toujours à ce salon, à cette 28e édition, vous avez parlé de nombreuses conférences tout à l'heure. Il y a aussi, à côté de ça, des animations qui sont prévues. Là aussi, je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez en citer une ou deux, par exemple, qui méritent qu'on les mette en avant ?
Oui, alors, là encore, vraiment, les exposants ont été extrêmement innovants. On est très heureux des animations. Je ne vais pas tout vous dire, parce qu'il y aura des choses assez ludiques et extrêmement innovantes. Donc, vraiment, vraiment venez les découvrir.
Un coup de cœur.
Mais alors, non, mais je ne peux pas choisir, mais je vais vous en citer deux quand même.
Ok, allez-y. Je ne peux pas choisir, mais j'en cite deux.
C'est ça. Non, on aura notamment une capsule qui, vraiment en immersion virtuelle, qui vise à montrer deux scénarios en 2050.
Ah,
si
oui,
on
top.
Agit pour le changement climatique, qu'est-ce qui se passe? Et si on n'agit pas, voilà
J'adore.
Ce qui va se passer.
Donc on se projette J'adore. En 2050.
Ouais. Exactement, cool. Exactement. On aura aussi un véhicule de santé extrêmement innovant de l'Oxamed en lien avec le groupement Software République qui d'ailleurs sera présenté en avant-première sur Vivatech cette semaine, mm-hmm. qui sera également présent sur le salon et qui apporte une solution de santé aux déserts médicaux et puis une cabine de téléphérique voilà, au sein du salon, un bus Escape Game sur les nouvelles énergies
sans
renouvelables.
Sans compter des cocktails sympathiques, on est très bien accueillis, c'est très fraternel comme ambiance. Et justement,
moto de la police municipale d'Évry-Courcouronnes, vraiment venez.
Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais le hall 6 est le hall le plus particulier du parc des expositions de Versailles, puisqu'il a été fait par Jean Nouvel, et il a été livré il y a deux ans. Il a été livré il y a deux ans, et c'est un morceau d'architecture absolument magnifique. C'est très très beau, avec un parvis qui est vraiment à voir. Bertrand, justement, quand on est aujourd'hui, finalement, parce que vous êtes aussi délégataire de services publics, me semble-t-il.
Ça nous arrive.
Vous avez des missions de délégation de services publics. Vous êtes un acteur incontournable. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend, avec l'expérience que l'on a depuis quelques années, finalement, un rapport public-privé de plus en plus harmonieux, est-ce que vous diriez oui, de plus en plus, on bosse avec les maires de concert, avec une véritable intention globale du service et de l'intérêt général?
Je trouve effectivement que depuis quelques années, quand même, la relation s'est densifiée. On cherche la compréhension mutuelle, on cherche les informations des deux côtés. On a admis finalement que chacun détenait pas de son côté la vérité, sans doute aussi par le besoin des collectivités locales d'aller chercher de l'optimisation pour leurs projets, des innovations. Et pour les entreprises, finalement, de comprendre qu'ils avaient besoin de s'adapter aux enjeux, aux besoins des collectivités, qu'elles devaient aussi, elles, entreprises, faire l'effort d'aller vers les élus pour s'adapter à leurs particularités.
Alors, je vais poser la même question que n'importe quel journaliste vous poserait. On voit de plus en plus de transparence en réalité. Est-ce que justement le fait qu'on a une génération d'élus jeunes, je prends par exemple chez vous à l'ALMIF, la personne qui est en charge du logement, c'est James Chéron par exemple. Je ne sais pas s'il est toujours en charge du logement. Vice-président,
Il est dans la task force logement, mais c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément.
Oui, c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément, qui d'ailleurs, Jean-Philippe, qu'on connaît bien ici depuis longtemps, qui est président du Grand Paris Aménagement, président de l'établissement public Île-de-France, vice-président de la région Île-de-France, maire de Mennecy et en plus vice-président de la MIF en charge du logement. Bon, bref, un jour je vais poser la question, quand est-ce qu'il dormait, vous savez, juste pour savoir qu'il y a une vraie passion. Et puis quelqu'un qui connaît bien justement le sujet du logement, on voit que cette génération est une génération qui n'est pas dépourvue d'idéal politique, mais qui en même temps a bien compris que la société civile est un allié sûr. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous pensez, vous Marion, qui êtes aussi de cette génération, je compare à la mienne par exemple, que de plus en plus on a cette osmose avec une société civile qui ne demande qu'une chose, c'est d'aider. Est-ce que vous ressentez parmi les partenaires, alors bien évidemment, on est aussi là pour faire des affaires, on est aussi là pour voir nos donneurs d'ordre, on est aussi là pour entretenir un réseau. Et il n'y a aucun antagonisme, mais on voit qu'il y a une meilleure approche finalement de cette société civile, industrielle, de services qui aident les collectivités locales.
Y a de toute façon des coopérations extrêmement fortes qui se tissent en permanence, hein, ça c'est clair. Hein, c'est aussi ce que disait Bertrand, à savoir que y a évidemment toute une partie des solutions qui sont imaginées par les entreprises et qui sont présentes dans l'agilité des entreprises. Après, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une question de génération, mais plutôt de façon de travailler.
Peut-être d'évolution, peut-être des
oui,
des pratiques.
Mais en même temps, on a quand même une rigueur législative aussi, qui va plutôt, on va créer,
dans le bon sens.
Oui, dans le bon sens. Et puis, Bertrand,
le fait d'avoir un cadre législatif permet de clarifier les choses finalement,
beaucoup plus transparent,
et donc permet aux entreprises comme aux élus, dans ce cadre-là, justement, d'aller en toute confiance les uns vers les autres. Juste un chiffre pour illustrer finalement ce que vous disiez, Sylvain. La MIF partenaire, qui est l'association sœur de la MIF, hein, qui regroupe à part égale élus et entreprises, comptait une quarantaine d'entreprises, d'organismes partenaires en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, on est à plus de 80.
Ah, c'est énorme.
On va dans ce mouvement-là.
Bien sûr. Donc, y a, effectivement, il y a beaucoup. Je prends juste l'exemple des personnes qui, aujourd'hui, vous savez, des énergéticiens qui sont des délégataires de certificats d'économie d'énergie à titre public. Ils permettent, par exemple, j'ai vu à Laval, avec le maire de Laval avec qui j'ai travaillé sur ce projet, la réfection d'un gymnase, d'une école, et on a débitumé, vous savez, les écoles, on a débitumé les cours pour laisser des îlots de fraîcheur, parce que vous parliez des îlots de chaleur, mais de plus en plus aujourd'hui, on réinvite la nature en ville pour créer, ben, mine de rien, quand même, c'est 2 degrés d'écart, 2 à 3 degrés d'écart. C'est pas neutre du tout de réinviter finalement ce genre de choses. Et effectivement, sans la délégation et le financement des C2E, par exemple, ou de ce que propose l'ADEME, comme l'ANA d'ailleurs pour le logement, ben, ça n'aurait pas vu le jour. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des professionnels industriel, de l'ingénierie pour aider ces collectivités locales.
Rapidement, parce qu'on arrive bientôt au terme de cette émission, Bertrand, on le disait, votre double casquette, donc à la MIF partenaire, si on devait donner comme ça quelques missions de ce que vous appelez vous-même sur votre propre site internet de laboratoire d'idées, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant ?
Au sein de la MIF partenaire ?
Oui.
Beaucoup de choses. Encore une fois, la MIF partenaire, c'est en premier lieu de permettre aux entreprises membres d'être utiles aux élus de la région Île-de-France. Comment on est utile ? On leur propose déjà des matinales, un certain nombre d'événements, en général tous les mois, tous les deux mois, pour apporter un exemple concret, une illustration sur un thème particulier. Exemple, dernière matinale, la MIF partenaire en date, si je ne dis pas de bêtises, consistait à donner finalement une méthodologie pour monter un projet photovoltaïque à une collectivité locale, voilà, avec trois partenaires qui expliquaient chacun un cas d'usage. On en a eu sur la constitution de sociétés d'économie mixte à opération unique, on en a eu sur plein de sujets différents. Ce sont des boîtes à outils qu'on livre et qu'on propose aux élus de la MIF. C'est aussi la possibilité pour les entreprises d'être sollicitées, d'intervenir dans les commissions thématiques de la MIF, qui regroupent des élus sur des thèmes particuliers, la mobilité, le logement, la sécurité, apporter sur des questions précises notre expertise, notre point de vue et notre expérience.
Très concret, ça permet de se projeter.
Bien sûr.
Et de voir ce que vous faites. La MIF, ce sont également des voyages d'études, j'ai vu. La destination, la prochaine, et pour quel thème ?
Nous irons à Tallinn, donc en Estonie.
D'accord.
Sur la question de la digitalisation, puisque c'est un pays qui s'est complètement digitalisé après son ouverture.
C'est incroyable.
C'est incroyable, qui est sorti de l'URSS en 1990 et qui aujourd'hui est un des pays les plus en avance sur ces questions. Et donc, ils reçoivent des délégations du monde entier. Ils ont même un centre dédié de présentation sur la
Absolument.
Transformation digitale de l'Estonie. C'est assez bluffant.
On a eu la chance d'interviewer le Premier ministre d'Estonie, auquel j'avais fait un gros voyage aussi, et j'étais bluffé, mais littéralement bluffé. Et je posais la question, et c'est vrai qu'elle est... Comment vous avez fait ? Et il m'a répondu qu'en sortant du bloc soviétique, ils n'avaient rien.
Exactement.
Rien. Rien. Pas de ressources minérales, pas de ressources en énergie. La taille d'un pays tout petit, hein, je crois qu'il y a moins de 4 millions d'habitants. Aucun autre avantage. Le tourisme, pour reconquérir une direction touristique, il fallait plusieurs années. Ils se sont dit, la seule chose qui nous sortira de là, c'est la technologie, la tech. Et tout de suite, ils ont mis en place, parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, les soviétiques ont quand même laissé des infrastructures d'éducation qui étaient quand même très affûtées, et ils ont focalisé là-dessus. Et en quelques années, c'est devenu au monde, Jean-Baptiste, l'un des pays les mieux connectés, les plus connectés, même avec des personnes qui ne sont pas digital natifs et qui s'y sont mis de façon absolument phénoménale. Aujourd'hui, c'est iconique. Vous y allez bientôt ?
On ira fin septembre, début octobre.
Génial. J'ai une place, je viens.
Et l'idée, c'est d'aller récupérer des idées qui peuvent éventuellement être reprises ici, au niveau de l'Île-de-France.
Exactement, puisque là, tous les services publics sont digitalisés. Donc, c'est comprendre comment est-ce que ce pays fait aujourd'hui pour à la fois la sécurité des données, pour être dans ce tel degré d'efficacité et de coopération publique-privée, qui est extrêmement forte également.
Alors, avant de nous quitter, je vous propose un jeu. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Ah bah oui, on est toujours prêt.
On a le droit de dire non.
C'était pas prévu, mais je... Alors, c'est pas un jeu à la pivot, paix à son âme, un homme extraordinaire qui nous a beaucoup appris, hein, Bernard Pivot. Je vous propose chacun, spontanément, sans aucune préparation, de penser à un mot, un adjectif, qui illustrerait les propos que nous venons d'échanger et qui donnerait aussi aux gens l'envie de venir au Salon des maires d'Île-de-France. On va commencer par vous, Marion.
Eh bien, je vais dire fierté.
Pas mal.
Ben oui.
Bertrand.
Je dirais utile.
Utile. Voulez-vous y prêter, mon Jean-Baptiste ?
J'ai envie de dire indispensable, vu tout ce qu'on a entendu.
Indispensable.
Et vous, Sylvain ?
Bah oui.
Et moi, je vais dire une chose, engagée.
Ça résume
parce
bien.
Que
pas mal.
Je vais voir des personnes engagées. Si l'on veut aujourd'hui rendre indispensable cet engagement pour devenir une personne engagée, encore faut-il être utile et l'exercer avec fierté.
Joli.
Pas
bravo,
mal, hein.
Bravo.
Bravo, hein.
Ce sera une belle conclusion. On est ravis d'être avec vous pour la 8e année consécutive. Et si vous me permettez juste une toute petite dernière aparté, c'est grâce à vous que nous nous trouvons ici, grâce à l'Association des maires d'Île-de-France, grâce à Stéphane Baudet, à Sophie Rigaud, à toute l'équipe, puisque quand on a démarré, la première émission, les premières émissions qu'on a fait à l'époque, c'était Porte de la Villette. Nous n'étions que deux dans le groupe. C'était Olivier, mon associé, et moi. Nous avions une table qui était une table de camping et deux chaises. Et on a fait la première intervention et on démarrait. Et personne ne nous connaissait, on ne savait pas d'où on sortait. Et c'est grâce à Stéphane, entre autres, qui a misé sur nous et qui nous a donné notre chance et qui a renouvelé cette confiance chaque année. Donc on est très fiers de vous accompagner encore une fois pour l'édition 2024. Merci.
Ben on est ravis et bravo à vous pour cette belle évolution.
Merci. Voilà, longue vie à Radio Imo, Radio Territorial, longue vie évidemment au Salon de la MIF. Rendez-vous donc la semaine prochaine, c'est sur le Hall 6 du Parc des Expositions, Porte de Versailles, 28e édition, les 28 et 29 mai, réservation du badge visiteur en ligne et téléchargement du programme également sur le site internet dont on n'a pas encore cité l'adresse, c'est salon-amif.fr, un événement à suivre en direct sur Radio Imo et Radio Territorial, avec de nombreux émissions d'ailleurs, hein, depuis notre stand sur le salon. Merci Bertrand Flao.
Merci
d'avoir
à vous
gentiment
et à la semaine prochaine.
Notre invitation. Merci. Et puis un grand merci également Marion Vergelen d'avoir gentiment répondu à notre invitation.
Merci à vous et à très bientôt la semaine prochaine sur le salon.
Un excellent salon. Merci Sylvain.
Merci Jean-Baptiste et on s'y retrouve voilà, d'arrache-pied au taquet devant un micro la semaine prochaine lors du salon. Venez nombreux.
Au taquet. Merci de votre fidélité et à très vite.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 28 et 29 mai 2024 à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Radio Imo et Radio Territoria.